Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La rébellion des LEDIF est responsable de certaines des violences les plus atroces commises en RDC. C'est la conclusion du rapport que vient d'élaborer l'Institut congolais des recherches sur la politique, la gouvernance et la violence Ebouteli. Dans ce rapport, cette structure affirme également que ces atrocités sont perpétrées par ces groupes armés pour, entre autres, recruter et saper la légitimité des gouvernements qui les combattent. Les LEDIF ont progressivement fui vers les territoires du Rumu, puis des Mambasa et enfin des Lubero, en continuant de perpétrer ces massacres, indique ce rapport. Ce document constitue une étude des cas des stratégies d'adaptation d'un groupe extrémiste violent lorsque confronté à des opérations militaires. De lundi 26 janvier dernier, des équipes de secours appuyées par les FARDC et des jeunes volontaires ont récupéré les corps des 25 personnes tuées la veille par ces rebelles EDF. C'était dans la chefferie de Walese Vonkutu en Ituri. Cette rébellion continue à commettre des massacres dans beaucoup de localités, dans la province de l'Ituri et aussi dans les territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu. Quelle analyse faire des conclusions du rapport de Bouteli sur les exactions des EDF et leur stratégie d'adaptation? Et que faut-il pour mettre hors d'état de nuire ces groupes armés? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons en ligne Rigen Miviri, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Bonsoir Rigen Miviri. Bonsoir Rigen Miviri. Voilà, apparemment il n'est pas encore là. Jackson Aouse Afingoto, député national honoraire. Il est notable du territoire d'Irumu en Ituri. Il est cadre d'Ensemble pour la République et parti politique de l'opposition. Bonsoir Jackson Aouse Afingoto. Bonsoir.
Allô?
Bonsoir Jackson Aouse, est-ce que vous êtes là?
Allô, Guy.
Bonsoir.
Et vous capte.
Et aussi Arsène Mouaka, il est professeur, il est député national élu des Beni territoires au Nord Kivu. Il est également cadre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir professeur Arsène Mouaka.
Bonsoir Guy Maté.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous le disions, la rébellion de l'EDF est responsable de certaines des violences les plus atroces commises en RDC. C'est la conclusion du rapport que vient d'élaborer l'Institut congolais des recherches sur la politique, la gouvernance et la violence Ebouteli. Dans ce rapport, cette structure affirme également que ces atrocités sont perpétrées par ces groupes armés pour, entre autres, saper la légitimité des gouvernements qui les combattent. Les détails avec vous, Benjamin Moudoumbi.
À partir de 1995 et pendant près de trois décennies, les forces démocratiques alliées à l'EDF, une rébellion islamiste d'origine ougandaise, se sont ancrées presque exclusivement sur les territoires des Beni, dans l'est de la RDC, où elles avaient développé des solides relations avec certaines communautés locales. C'est ce qui ressort des rapports d'Ebouteli sur ces groupes armés. Mais à la suite d'opérations organisées contre elles par les forces armées de la RDC et FRDC en 2019, puis de manière encore plus nette et rapide à partir du début de l'opération conjointe des FRDC et de l'armée ougandaise UPDF, dite Suja, en novembre 2021, les ADF ont progressivement fui vers les territoires d'Irumu, puis des Mambasa et enfin des Lubero, en continuant à perpétrer ces massacres. Ce rapport constitue une étude des cas des stratégies d'adaptation des groupes extrémistes violents lorsque confrontés à des opérations militaires, précise ces rapports. Il explique notamment comment les ADF ont fui de leur bastion sur les territoires des Beni vers la province de l'Ituri et dans d'autres territoires. La logique de ces massacres n'est pas fondamentalement nouvelle. Depuis 2013, ce groupe est responsable des centaines de violences les plus atroces commises en RDC, perpétrées pour recruter et zapper la légitimité des gouvernements qui les combattent. Les ADF sont ainsi devenus le pilier des réseaux violents qui se chevauchent et se renforcent mutuellement, exacerbant la crise humanitaire et sécuritaire dans un contexte où la crise du M23 semble reléguer les autres conflits au second plan. Il est donc important de rappeler que les ADF demeurent l'un des groupes les plus meurtriers de la RDC.
Merci à vous, Benjamin Moudoumbi. À Nitouri, au moins 22 autres civils ont été tués ce dimanche dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ZDF à Pakoulo dans les territoires d'Irumu, ce qui porte à 25 les nombres de personnes tuées par ces rebelles dans cette région en l'espace de 48 heures. L'ONG Convention pour le respect des droits humains, CRDH en sigle, parle des morts des trop et interpelle les autorités. Martial Kizadiamungu pour les détails.
C'est depuis 4 heures du matin que des individus identifiés comme les rebelles des ZDF ont attaqué la localité des Apakolo, près de la colline appelée communément Barça, à 15 km à l'ouest du centre commercial d'Otumaber. Selon l'ONG CRDH, qui cite une femme rescapée, parmi les victimes, 15 personnes ont été exécutées à tour de rôle par leurs ravisseurs dans une maison abandonnée où elles étaient gardées, après avoir été prises en otage la veille. Toujours selon la même source, le 7 autres civils ont été tués par balles des rebelles le long de la route. La nuit des vendredis à samedi, une double attaque attribuée aux ZDF a eu lieu dans les localités des Aombo et Mangualo situées dans le Wolesevokuto. 3 civils y ont été tués par balles. L'ONG CRDH plaide pour des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF dans les zones proches des localités où s'observent les retours de la population afin de protéger les habitants.
Il faudrait qu'il y ait une force de défense et de sécurité pour traquer ces terroristes et permettre à la population d'aller récupérer les corps de nos populations.
Aucune réaction de l'autorité locale n'a été enregistrée jusqu'à présent. Bounia, Martial Kizadiamungu, Radio Okapi.
Merci beaucoup, Martial Kizadiamungu. Rigen Mivir, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous écoute très bien.
Bonsoir, Rigen.
Bonsoir.
Voilà, je rappelle que vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ces rapports sur les EDF Rigen Miviri?
Tout d'abord, il faut noter que nous suivons cette dynamique depuis plusieurs années et nous avons déjà fait plusieurs autres rapports sur les sujets. Mais il nous a paru important de faire un nouveau rapport et d'actualiser nos connaissances par rapport à ce groupe, étant donné qu'il y avait de nouvelles dynamiques, notamment le fait qu'il y a eu des opérations conjointes avec les UPDF. Il y a eu aussi la progression de ce groupe vers d'autres territoires, alors que dans le passé, il était circonscrit sur les territoires de Beni. Donc, pour l'instant, ils sont déjà sur Irumu, ils sont sur Mambasa, ils sont à Lubero. Et donc, il nous a paru important de travailler.
Voilà, Rigen Miviri.
Une autre raison.
Allez-y.
Voilà, une autre raison, c'était le fait qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la dynamique M23 et l'agression rwandaise. On pensait qu'il était important de rappeler qu'il y a aussi d'autres conflits et malheureusement qui font parfois même plus de morts dans les rangs des Congolais et pourtant on n'en parle pas assez. Donc il nous a paru important de rappeler les gouvernants mais aussi l'opinion publique que cette crise reste aussi importante et c'est une crise qui réclame beaucoup de vies humaines encore malheureusement.
Voilà, dans ce rapport il est dit que ces rebelles sont ancrés presque exclusivement sur les territoires de Beni où ils avaient développé des solides relations avec certaines communautés locales. Rigen Miviri, si comme ce rapport le dit, s'il y a eu des relations solides, n'est-ce pas, avec certaines communautés locales, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que subitement ces rebelles sont devenus violents vis-à-vis de ces mêmes communautés?
Déjà, on a dit que ce rebelle ou ce terroriste avait l'ancrage à Beni. Donc, je pense que ce n'est plus suffisamment le cas. Beaucoup de choses ont changé, étant donné que depuis qu'ils sont devenus plus violents, il y a beaucoup de leur soutien de l'époque qui se sont désolidarisés d'eux. Mais aussi, il faut noter que avant, ils ne commettaient pas de violence là où ils s'étaient sédentarisés.
Alors, qu'est-ce qui explique qu'ils sont devenus plus virulents maintenant vis-à-vis de ces populations qui les avaient acquis?
Actuellement, on pourrait dire clairement d'abord qu'il y a un lien entre la virulence et les opérations militaires. Chaque fois qu'il y a des opérations de grande envergure, la violence aussi des ADS augmente. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit, et notamment dans nos analyses, que c'est important que les opérations soient bien préparées de telle sorte qu'on puisse prendre en compte la protection des civils. Parce que c'est presque inévitable que chaque fois qu'il y a des opérations militaires, les ADF vont faire des représailles sur les populations civiles.
Voilà, ces rapports expliquent aussi comment les ADF ont fui leurs bastions, les territoires des Béni, vers la province de l'Ituri et d'autres territoires nouveaux, à la suite, n'est-ce pas, des opérations conjointes FRDC et UPDF. Donc cela veut dire que ces opérations, au lieu de neutraliser ces rebelles, leur ont plutôt permis de se disperser sur un vaste territoire que celui sur lequel ils étaient établis avant, et le radicalisant davantage et devenant davantage plus virulent contre la population.
Oui, on peut dire cela, mais c'est encore plus complexe que cela, parce que déjà, ce n'est pas que les opérations UPF, parce qu'il y avait avant les opérations de grande envergure, et il y a eu plusieurs opérations, mais on doit noter que chaque opération faisait que les groupes étaient en mouvement. Et surtout quand l'armée congolaise à l'époque, avec la MONUSCO, pouvait démanteler des camps dans le territoire de Beni, ils allaient vers d'autres territoires. Et donc, ce n'est pas seulement les opérations UPDF qui les ont amenés jusqu'à Irumu. Déjà à Irumu, d'ailleurs, ils étaient déjà là avant les opérations UPDF. Qui se sont installés beaucoup plus à Mambasa, bien sûr, après les opérations UPDF, et encore plus à Lubero. Mais en tout cas, le mouvement reste dans leur stratégie. C'est un groupe très mobile, et je pense que c'est une des raisons qui fait que c'est relativement difficile de les combattre et de les neutraliser.
Voilà, il a été dit par certains experts que ces ADF, lorsqu'ils se sentent acculés par l'armée, vous l'avez aussi dit, Rigen, lorsqu'ils se sentent acculés par l'armée, ils s'en prennent à la cible facile qu'est la population civile. Dans les tactiques mises en place par l'opération Soudja, est-ce qu'on a prévu des stratégies pour protéger les civils pendant ces opérations?
Je pense que c'est une des leçons qu'on tire de cette recherche, et c'est aussi une recommandation qu'on donne. On a comme l'impression que la protection des civils n'est pas forcément la grande force de ces opérations, étant donné que chaque fois qu'il y a des opérations, on sait quasiment qu'il y aura de représailles, mais il n'y a pas de mesures qui sont prises en amont. On a aussi noté que les opérations sont strictement militaires. Donc, par exemple, le renseignement civil et militaire n'est pas dans des villages n'est pas forcément mis à contribution, ou la police n'est pas mise en contribution pour notamment la protection des citoyens, étant donné que les militaires sont mobilisés sur des fronts et parfois en profondeur de la brousse. On a aussi noté en fait quelque chose que par rapport aux intérêts des uns des autres. Donc les intérêts de l'Ouganda ne sont pas forcément les intérêts de Congolais. Le Congolais, les intérêts seraient de protéger les populations contre ces massacres, mais pour les Ougandais, une fois la menace est repoussée très loin de leurs frontières, et une fois les réseaux économiques sont sécurisés, il est évident qu'eux, ils vont considérer que c'est un succès. Et donc, pour eux, ils évaluent le bilan positivement, pendant que nous, par exemple, on considère que ce n'est pas encore une réussite, étant donné que les massacres se poursuivent.
Merci, Jackson Aoussé Afingoto. Vous êtes député national honoraire. Et vous êtes aussi notable du territoire d'Irumu en Ituri. Vous êtes cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Comment vous analysez ces conclusions du rapport des Boutelis sur les exactions des ZDF et aussi leur stratégie d'adaptation?
Oui, je salue d'abord mon débat. Je vous salue, monsieur le journaliste. Nous saluons à ce moment-là aussi nos auditeurs. Sincèrement, c'est une catastrophe. Nous saluons les rapports. Le rapport, il est exhaustif. Ça prend en compte tous les paramètres de la menace, des problèmes sécuritaires, de la gestion, des résultats, etc. Nous saluons. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur le journaliste, permettez-moi de ne pas trop tarder sur les rapports. Parce que les rapports traduisent juste ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain est presque connu de tout le monde. On ne serait pas, au jour d'aujourd'hui, se concentrer sur la diagnostic des problèmes ou identification des problèmes. Cette étape serait déjà franchie parce que nous sommes en train de comptabiliser le monde. Les bilans sur terrain, messieurs les journalistes, dépassent tout attendement. Tout ce que nous voyons comme image, tout ce que nous voyons comme les corps qu'on transporte sur les motos, c'est loin inférieur en réalité quotidien de cette zone. Si je parle de la zone, je fais allusion à un triangle de mort, c'est-à-dire la partie entre le territoire d'Irumu et Beni et le territoire de Beni et Mambasa. Et Mambasa-Irumu. Le triangle là est un triangle où la vie n'est plus possible dans cette zone. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, mères, ligotées. C'est extraordinaire. Vous savez, messieurs les journalistes, dans cette zone, nous avons plus ou moins 6 entités territoriales décentralisées qui sont effacées de la carte. Aujourd'hui, je vous dirais clairement que la chefferie de Wallace et Vankoutou du côté Irumu n'existe plus. La chefferie de Banyali Tiabi n'existe plus. Je suis à Irumu. Vous partez à Beni, le secteur de Beni Mbaou n'existe plus. La chefferie de Batalingue n'existe plus. Vous allez à Mambasa. La chefferie de Babila Babombi est presque disparue sur la carte. La chefferie de Babila Bakwanza n'en parle pas. Nous avons comme ça 6 chefferies, même s'il y a un secteur parmi, qui ne fonctionne plus.
Justement, mais nous sommes à l'aise. Justement, honorable Jackson Aoussé Afingoto, dans ces rapports, parce qu'on revient sur les rapports, il est dit que ces rebelles se sont étendus, n'est-ce pas, à certains territoires, à certaines localités, aussi à la suite des opérations conjointes FRDC-UPDF. Quelle évaluation vous pouvez faire de ces opérations militaires, vous, Jackson Aoussé?
En fait, en tant qu'élu du peuple, en tant que notable, pour moi, l'indicateur principal d'évaluation d'une opération que ce soit, c'est la protection de la population. À partir du moment où nous sommes dans une situation où on meurt à corps à nombre dans le même endroit, souffrez que je puisse vous dire que ces opérations sont à corps jusque-là un échec total. Parce qu'on ne fait pas les opérations pour les opérations, on fait les opérations pour sauvegarder les vies humaines, pour bâtir la paix. À partir du moment où il n'y a pas la paix, à partir du moment où les vies humaines sont fauchées, on fait quel bilan?
Voilà, parce que vous rappelez que vous êtes...
La période avant les opérations est égale à la période après les opérations, parce que les gens mouraient avant, les gens sont en train de mourir présentement. L'expert venait de le dire pertinemment. On devrait marier les opérations militaires et le mécanisme de protection des civils. Bon, même si l'ennemi est en train de bouger, mais messieurs les journalistes, il est resté dans le même périmètre. Les périmètres sont les mêmes. Si, par exemple, le dernier bilan ici, là où on parle de 22 personnes ou de 25 personnes, mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a plusieurs corps qui sont encore dans la forêt, qu'on n'a pas encore identifié. Il y a plus de 100 personnes qui sont encore prises en otage par les EDF de cette forêt. Je parle bien de ce qui s'est passé hier dans la colline de comment est-ce qu'on appelle cette colline? La colline de Kasoko, de Apakolu, et de Kazaroro. Ah donc, c'est trop simple de dire que non, ces opérations n'ont pas encore commencé parce que rien n'a encore changé sur le terrain, messieurs les journalistes.
Merci. On a compris, honorable Jackson Afingoto, on vous garde encore dans cette émission. Arsène Mouaka, vous êtes professeur, vous êtes député national élu de Béni Territoire au Nord Kivu. Vous êtes également cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Quelle est votre analyse du rapport de Bouteli sur les actions des EDF?
Avant de me prononcer sur le rapport de Bouteli, je voudrais d'abord prêter mes condoléances à la population de l'Ituri et du Nord Kivu qui a perdu énormément de gens dans ce massacre, et surtout le massacre le plus récent.
Professeur, vous avez activé le mode main libre?
Non.
Essayez de désactiver ce mode-là. Parlez normalement.
Ok, allez-y. Je disais que je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la population de l'Ituri et du Nord Kivu, victime de ce terrible massacre, et particulièrement les tout derniers massacres que nous venons de déplorer en Ituri. Et deuxièmement, je voudrais encourager Ebouteli pour cet effort de pouvoir cerner le tigre de l'ADEF, puisque l'ADEF est resté énigmatique et le plus souvent, les études sur l'ADEF sont très très rares au point de ne pas dire le phénomène en lui-même. Maintenant, ce rapport, qui a beaucoup d'éléments et de bons éléments, a aussi les faiblesses des rapports qui est fait de manière synthétique sur une histoire qui a réalité longue. Et c'est la difficulté justement de rentrer dans une histoire qui est très très longue et au final, soit par mal interpréter certaines réalités. Par exemple, dès la première page du rapport, hein, on peut y lire par exemple que les populations, certaines communautés locales ont développé des relations solides avec l'ADEF. Donc c'est justement cette difficulté de ne pas bien saisir la naissance et même l'histoire de l'ADEF, puisque soit dit à part ça que l'ADEF est née à Bunia en septembre 1995. C'est à Bunia dans notre pays que l'ADEF est née, à partir des jeunesses islamistes qui avaient traversé à Kasseni et qui ont été recueillis dans des contradictions régionales.
Allô, professeur, est-ce que vous êtes encore là? Allô, allô. Voilà, apparemment le professeur est parti. Jackson, là où c'est Afingoto. Allô, vous êtes là, Jackson?
Je suis là, monsieur.
Voilà, on revient encore sur ces rapports, hein, parce qu'il s'agit de ça en fait. Ces rapports disent que l'utilisation de la violence par ces rebelles s'est renforcée à mesure qu'ils les pénétraient, n'est-ce pas, dans les zones nouvelles à la suite des opérations militaires. Et donc on peut comprendre par là que au lieu de réduire leur capacité de nuisance, ces opérations ont rendu ces groupes plus violents.
Naturellement, les groupes sont devenus virulents et la population a payé réellement les tribus les plus lourds. Aujourd'hui, par exemple, si vous tu vois leur mode opératoire, ils arrivent, ils incendient tout un village ou tout un campement, incendient toutes les maisons, ils appréhendent les gens, ils les abattent les uns et ils apportent les autres. Si vous retournez vers les années 2014, le phénomène a repris à Beni, c'était le même mode opératoire. Donc, dire que le groupe est devenu virulent ou... Non. Le mode opératoire est resté le même. Hostile à la population, prêt à tout détruire, tout ce qu'il trouve dévahé. Donc, nous avons affaire au même ennemi, avec le même mode opératoire. Mais malheureusement, c'est nous à notre côté. Si je parle de nous, je parle du gouvernement. Vous savez, messieurs les journalistes, si aujourd'hui le Nord Kivu, l'Ituri est sous état de siège, vous allez être d'accord avec moi que c'est principalement à cause de la violence ou de l'activisme des groupes armés qu'on appelle EDF. Parce qu'à 2020-21, le territoire de Beni était à feu et à sang. Et c'était l'arrivée de ces groupes-là en Ituri, précisément dans le territoire d'Irumu. Alors, étant donné que c'était devenu très compliqué, il était question qu'on puisse soumettre ces provinces à l'état de siège. Donc, comment nous allons continuer à plaider? Comment nous allons continuer à constater les morts à partir du moment où l'ennemi n'a pas changé? À partir du moment où l'ennemi n'a pas changé le mode opératoire? Et qu'est-ce que nous attendons pour nous adapter? Parce que l'ennemi est en train de s'adapter à notre mode, à notre opération, à notre mode opératoire. Mais qu'est-ce que nous attendons?
Merci.
Souffrez que je vous dise qu'il y a la légèreté de notre côté dans la prise en charge de la question ADEF.
Merci, on a compris. On me signale que le député Arsène Mouaka est de retour. Arsène Mouaka, vous êtes là? Voilà, vous étiez en train d'analyser les contenus du rapport de Boutelli sur les EDF.
Oui. Je disais donc que le rapport souffrait de quelques faiblesses d'ordre historique, parce que quand on fait un rapport sur une longue histoire, il faut faire attention aussi au passé, parce que certains éléments d'aujourd'hui sont expliqués par ce qui s'est passé. En résumé, je disais que l'ADFNE a des contradictions régionales qui impliquaient à la fois le Soudan, à la fois le Congo, avec les pays de Mobutu à l'époque, et même l'Ouganda, et dans une certaine mesure, déjà, il y a une étape de contradiction rwandaise. Et donc, l'ennemi, dans le sens de dire que la population a collaboré, c'est ignorer, par exemple, que l'ADEF est né à Bouni en septembre 1995, que l'ADEF a recruté officiellement, dans la même année en 1995, à Matongé, à Beni. C'est ignorer que le régime de Laurent Désiré Kabila s'est allié à l'ADEF et que l'ADEF avait comme ça une liberté de mouvement sur notre territoire, puisque c'était en réaction à ce que l'Ouganda faisait contre le Congo. Et donc c'est une très longue histoire qu'on ne peut pas développer ici, mais juste pour dire la question de l'ADEF est intitulée à la question de la sécurité nationale. Dans les décisions qui ont été prises à Kinshasa pour choisir de réagir à l'insécurité qu'il y avait pour origine l'Ouganda et qui fait tomber par la chute de Beni le 2 novembre 1996. Et donc, c'est dire que le rapport souffre de quelques éléments d'histoire, mais a beaucoup d'éléments d'actualité qui ont justement des problèmes dans le sens explicatif.
Voilà, professeur.
Le rapport est très intéressant parce qu'il remet sur la table une question qui semble être oubliée.
Ok, voilà. J'allais vous demander, vous, en tant qu'élu du territoire de Beni, un territoire qui a été affecté pendant longtemps, n'est-ce pas, par l'activisme de ces groupes armés, ces rebelles des EDF, qu'est-ce qui peut expliquer leur capacité de résister en dépit de toutes les opérations militaires qui ont été menées contre eux jusque-là.
Je suis de la ville de Beni, mais si la DEFA c'est plus que la DEFA,
on a du mal à vous comprendre. Professeur, essayez de bouger un peu, hein, la ligne s'est détériorée. Oui. Hein, essayez de bouger un peu là. On a du mal à comprendre ce que vous dites. Allez-y.
Allô?
Oui, allez-y.
Je disais donc, si la DEFA a dû résister longtemps, c'est par le fait que la DEFA n'ont pas menacé la sécurité des populations et non la sécurité d'un quelconque régime ou de l'État. Et donc, ils sont restés souvent en brousse dans les parcs nationaux et dans les côtés où pratiquement ils ne prennent pas la route de Kinshasa. Et ça, à travers le régime de Mobutu, à travers le régime de Laura de Kabila, de Kabila et peut-être aujourd'hui, ce qui fait que c'est peu réunis au second plan. Maintenant, quelque chose s'est passé successivement, d'abord avec Mamadou et Bahouma, il y a eu des efforts, et finalement avec l'Uganda, comme le collègue Aouche l'a dit, il y a quand même un secteur qui a été évacué totalement, c'est le secteur de Rwenzori, et finalement, dans une certaine mesure, le secteur de Limbaou, mais juste être poussé dans d'autres secteurs où la DEF n'avait jamais été, comme à Mitouri et dans les Boutéros. Donc, c'est dommage ce qui se passe, mais je suis d'avis qu'il y a des efforts visibles là où les opérations ont été prises au sérieux. Et donc, c'est dire que la DEF tire sa force, justement de la faiblesse des opérations. Ça, on le fait pas sérieusement.
Allô? Allez, allô, professeur, vous êtes là?
Une idéologie qui pratiquement, c'est bien le ferment, qui perpétue son action et qui perpétue justement sa présence, et de telle sorte qu'aujourd'hui, on est comme à la case de départ. Et donc, qu'on déplore encore des morts à Chouaïrébou. C'est pas nouveau. Et donc, comme le collègue Aouche venait de le dire, c'est toujours de la même manière qu'il nous a tués, qu'il continue à tuer. Et à la décharge de l'armée ougandaise, il faut dire qu'il y a quand même une autorisation gouvernementale qui les autorisait à aller jusqu'à un certain espace. Et finalement, ça s'est détendu et les opérations qui devaient être conjointes semblent être abandonnées tellement au sein du Gandais. On peut aussi encourager notre armée à s'assumer aussi face à ce cancer qui a beaucoup tué et qui pratiquement mérite d'être effacé dans cette région.
Merci. Nous allons maintenant écouter l'opinion exprimée par les différents auditeurs. Là, Monsieur Riguet Niviri, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Isangi, et c'est Gaston Bilambo.
Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. Le rapport de Boutelli se distingue par une approche méthodique, factuelle et contextualisée, fondée sur des données de terrain et une lecture stratégique des violences. Sur le fond, il démontre que les ADF utilisent la terreur comme outil d'adaptation militaire, de recrutement forcé, de légitimation de l'État en se redéployant géographiquement face aux opérations conjointes. Sur la forme, le document est clair, structuré et analytique, évitant l'émotionnel au profit de l'explication des mécanismes de violence. Toutefois, il y révèle surtout les limites d'une réponse essentiellement militaire. Mettre hors d'état de nuire, les ADF exigent une action intégrée. Renseignement communautaire crédible, sécurisation durable des zones libérées, justice contre les réseaux de soutien, coopération régionale effective, traçabilité des financements et prise en charge des victimes. En l'absence d'une restauration réelle de l'autorité de l'État, combinée des politiques de développement local et à une relation de confiance stable entre civils et forces armées, les groupes armés continueront de se reconfigurer et de prospérer.
Rigan Niviri, votre réaction?
Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, en fait, parce qu'il il relève en fait un peu ce qu'on a aussi relevé, le fait que la réponse n'a pas été efficace jusque-là. Mais je crois aussi que une des raisons pour cela, c'est parce que, comme le disait le professeur Arsène Mouaka, c'est que la réponse a été laissée en grande partie au partenaire qui a été invité. Donc, quand vous regardez les opérations qui se passent sur le terrain, elles sont menées en grande partie par l'armée ougandaise, en fait. On pourrait même dire que ces opérations ont le nom, le qualificatif de conjoint que de nom, en fait. En réalité, c'est presque des opérations ougandaises où les FARDC accompagnent dans une certaine mesure. Et ça, c'est depuis très longtemps, depuis déjà 2022, lorsqu'il y a eu des positions dégarnies, notamment à cause de la crise M23, où on a préféré redéployer des militaires sur le front sud, vers le nord Kivu, et laisser parfois des positions qui étaient des positions importantes sans défense. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a relevé et qui est bien expliqué dans le rapport. Permettez-moi quand même aussi de revenir sur un peu l'histoire de ce mouvement, parce que je suis d'accord avec le prof Arsène que en réalité c'est une histoire longue et c'est une histoire qui s'inscrit aussi dans les soubresauts régionaux. Et donc, peut-être que ce n'était pas le but de ce rapport de réinscrire ce groupe dans son histoire, mais aussi dans l'histoire de cette région. Mais il faut rappeler qu'en fait, en 1995, quand ce groupe est formé, bon, selon les histoires, on parle de Bounia ou de Beni, parce que là, on parle des ADF Nalu, parce que ici, on parle de ADF, mais à l'époque, c'était ADF Nalu, et qui était une combinaison entre deux groupes qui avaient un ennemi commun, qui était le régime ougandais, mais qui avaient de natures différentes. Les uns étaient déjà à la base déjà des islamistes en termes de vision, les autres étaient plutôt on pourrait dire, de séparatistes ou de gens qui avaient, en tout cas, des revendications politiques localisées dans une zone particulière de l'Ouganda. Mais là encore, quand on parle de liens avec la population civile, bien sûr, c'est un groupe qui est venu de l'Ouganda, mais comme on l'a dit dans le rapport, c'est une histoire ougandaise qui est devenue congolaise. Donc, c'est important de l'assumer ainsi et de dire que pendant très longtemps, ce groupe était presque inoffensif envers les populations, que des liens se sont tissés et il y a eu de mariages, il y a eu des intérêts économiques et tout cela. Donc, dire cela, ce n'est pas stigmatiser une communauté quelconque, mais c'est juste recontextualiser et rappeler aussi les engagements qui ont été faits à l'époque. On a parlé aussi du régime de Mobutu qui, à un moment, pensait aussi, dans une certaine mesure, utiliser ces nouveaux groupes contre l'agression ougandaise ou contre le régime ougandais de l'époque. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je voudrais juste mettre un peu de nuance pour dire oui, c'est des choses qui se sont passées dans notre histoire et que c'est important de comprendre toute l'histoire.
Merci.
Et de l'assumer pour résoudre le conflit aujourd'hui. Mais en fait, ce rapport, c'est sur, pas sur l'histoire, mais sur l'actualité.
Merci, Jackson Haussé Afingoto. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo, Blaise Saïdi.
Depuis Kisangani, Blaise Saïdi Atouma. Les conclusions du rapport de Buteli montrent que les ADF ont aussi s'adapté aux offensives militaires en exploitant les failles sécuritaires, sociales et institutionnelles de l'État congolais. Tant que la réponse restera essentiellement militaire, sans protection effective des civils, lutte contre l'impunité et restauration de l'autorité de l'État, ce groupe armé continuera de nuire. Mettre les ADF hors d'état de nuire exige donc une stratégie globale, centrée sur la sécurité humaine et la gouvernance locale. Pourquoi les opérations opérations militaires et répéter nos récits à éradiquer les ADF? Comment améliorer la protection des civils dans les zones affectées par les exactions des ADF? À quoi la faiblesse de la gouvernance locale favorise-t-elle la résilience des ADF?
Jackson Aoussé Afingotou.
Oui, monsieur le journaliste, la question de M. Blaise est pertinente. Vous allez être d'accord avec moi que toutes ces zones, toutes ces entités, pour être précis, où nous sommes en train de décrier l'activisme ou le perte de vies humaines, sont des entités gérées soit par des militaires ou bien par des policiers. Chez moi, dans le territoire du Rumu, j'ai un administrateur de territoire militaire. À Beni, nous avons un administrateur du territoire militaire. À Mambasa, nous avons un administrateur du territoire militaire ou policier, quelque chose. Donc, pour dire que il n'y a aucune raison qu'on en parle aujourd'hui, disant que non, à Irum, on a tué ces 4 personnes, on a kidnappé 100 personnes. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça dit la fragilité. Je m'excuse. Des systèmes de sécurité, il est flagrant, en fait. La fragilité est flagrante, en fait. C'est pour cette raison, comme l'auditeur venait de dire, nous devons repasser, alors, carrément. Parce que, comme l'expert venait de dire, et le professeur l'a dit, laisser les mécanismes ou bien les opérations sous l'angle exclusivement militaire a déjà montré sa limite. Nous devons maintenant aller au-delà, c'est-à-dire impliquer les sociétés civiles. Si je parle des sociétés civiles au pluriel, c'est parce que nous sommes en face de 2 provinces et de plusieurs territoires au même moment. Nous devons impliquer l'autorité locale. Est-ce que vous savez que les chefs de chefferie de toutes ces zones ne participent pas aux réunions des opérations contre les Indiens? Je ne sais pas si, parce que je n'ai pas connu l'état de lire le rapport, je ne sais pas si le rapport a pris en compte cet aspect des choses. Donc, si nous voulons que ça puisse changer sur terre, nous devons carrément abandonner ce que nous faisons maintenant. Continuer à bombarder, à larguer des bombes dans la forêt, d'une manière sporadique, disperser l'ennemi, et tout ça, va continuer à nous maintenir dans ces résultats macabres.
Merci. Merci, Jackson Aoussé. Professeur Hassan Mouakor, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, c'est Charles.
C'est Charles Kivata depuis Kinshasa. Cette rébellion ougandaise d'ADF, et dans cette partie de la République démocratique du Congo, avant même celle des AFC M23. Mais apparemment, on en parle moins, on s'en occupe moins, alors qu'ils viennent dans les villages à l'est là. Dans beaucoup de villages, ils décapitent les gens, ils prennent les otages, ils pillent et brûlent des villages, et rentrent calmement en laissant des traces, sans toutefois être inquiétés dans leur retranchement. Pourquoi cette attitude de nos services de sécurité? Parce que ces gens-là, avant de rentrer, ils laissent quand même des traces. On peut les poursuivre juste à connaître leur retranchement et mettre fin à cette rébellion. Mais pourquoi alors cette attitude de nos services de sécurité contre les ADF ougandais?
Professeur Arsène Mouaka. Allô, professeur Arsène Mouaka, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment, le professeur n'est pas là. On va passer à la deuxième question et puis on va conclure. Hein. Qu'est faut-il pour mettre hors d'état de nuire ces groupes armés? Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Quelles sont les quelques recommandations, n'est-ce pas, qu'Ebouteli formule à l'endroit du gouvernement pour réduire tant soit peu la capacité des nuisances de ces rebelles?
La première proposition, et c'est une suggestion qui n'est pas nouvelle, elle vient d'ailleurs de la de la société civile qui le répète chaque jour. Il faut faire en sorte que la protection des civils soit une priorité dans ces opérations. Il ne sert presque à rien d'avoir de gains militaires, notamment en détruisant des campements, si cela ne permet pas à ce que les massacres ne puissent cesser. Donc ça, c'est très important. Mais aussi, deuxième chose qui est liée à cela, c'est faire en sorte que la contribution de l'armée congolaise soit significative dans ces opérations. Parce que si on laisse ces opérations aux seuls Ougandais, ils vont les orienter de telle manière que ce soit leurs intérêts qui puissent être les plus importants. Et ça, on a vu que notamment les intérêts des Ougandais, c'est notamment de manière tactique, c'est de faire en sorte que la menace soit plus loin de leur territoire. Et là, il réussit de plus en plus. Rwenzori, qui était la zone aussi là, qui était très affectée par ces massacres, est presque pacifiée, parce que c'est leur frontière. Les zones où il y a les travaux de la route, notamment Kasindi-Beni, ces zones-là sont aussi pacifiées dans une certaine mesure. Donc, il faut savoir que le Congo doit aussi tirer son épingle du jeu et se rendre compte que, en fait, cette façon de sous-traiter la sécurité à d'autres acteurs a des limites et Merci. Que cela ne doit être que temporaire.
Merci. Merci, professeur Hassène Mouaka. Est-ce que vous êtes là? Allô, professeur Hassène Mouaka?
Oui, je suis là.
Voilà, nous sommes presque au niveau des conclusions. Hein. Nous sommes en train de proposer, n'est-ce pas, des pistes de solutions. Et à votre avis, que faut-il faire pour remettre hors d'état de nuire ces groupes armés? Allô, professeur? Allô,
oui,
professeur.
Je suis Abine.
Oui, est-ce que vous entendez, vous m'avez suivi quand je vous ai posé la question? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour qu'on puisse réduire la capacité de nuisance ou alors pour mettre hors d'état de nuire ces groupes armés?
Oui, moi je suis d'avis qu'il faut avoir une approche globale de la sécurité dans la province du Nord Kivu. Je pense que le rapport le dit, où les groupes se nourrissent, l'insécurité se nourrit. Opération juste pour la DEF, MSC et des groupes armés à
quoi. Voilà. Des sérieux problèmes par rapport à la ligne du professeur Moukas. On a du mal à vous écouter, professeur Arsène Mouaka. Jackson Aoussé Afingoto, député national honoraire, vous êtes notable du territoire du Rumwanitouri. Vous êtes cadre d'ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Quelles sont vos propositions pour que l'on arrive cette fois-ci à mettre hors d'état de nuire ces groupes armés, les ZDF?
Oui, moi je pense que les solutions, il y en a. Et on l'a toujours proposé. Premièrement, c'est l'implication large de la population. Parce que vous serez d'accord avec moi que la population est victime. Victime, la première victime, la victime la plus collatérale. Alors, la population étant victime, il faut l'impliquer. Et la bonne manière d'impliquer la population dans ces opérations, c'est d'abord la démilitarisation de l'administration. Il faut qu'on démilitarise l'administration pour qu'on puisse permettre à bien militariser les opérations. Il faut qu'à Irumu, à Mambasa, à Beni, à Nituri, au Nord Kivu, qu'on retourne les administrations civiles. Ça va permettre à ce que ces autorités civiles puissent être à même de mobiliser les autres couches non militaires pour assurer leur participation dans les différentes opérations. Parce que les opérations comme ça se fait aujourd'hui, elles se font exclusivement militaires. Et ça posera problème. Donc pour moi, il faut démilitariser l'administration. Ça permettra que la population étant victime puisse être pleinement impliquée dans les processus à travers la société civile, à travers les autorités locales. Là, nous allons être beaucoup plus exhaustifs dans l'approche que nous voulons mener contre ces ennemis.
Voilà, nous sommes à la fin.
Donc,
de l'émission.
Au niveau de
nous
la participation de la population,
oui.
qui a ma contribution.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. C'est quoi votre mot de la fin, Jackson Aoussé Afingoto?
Mon de la fin, c'est de présenter ma condoléance d'abord à la population des chefferies de Wallace et Vonkutu, de Babila Babombi, de Babila Bakwanza, de Beni, parce qu'ils meurent chaque jour, ils sont en train d'être atterrés. Et je profite de votre micro pour condamner l'attitude du gouvernement central et du gouvernement provincial, que ce soit de Nord Kivu ou de Ituri. Ok, communiqué.
Merci,
même
on a compris.
Pas de communiqué.
On a compris, Rigen Uviri, un mot à guise de conclusion, juste un mot.
Oui, en conclusion, c'est de dire qu'il faut qu'on puisse encore parler de plus en plus de ces massacres parce que ce sont des massacres qui sont en train d'emporter des Congolais et on ne peut pas ne pas en parler tout simplement parce qu'on pense que c'est une menace qui ne touche pas les institutions jusqu'à Kinshasa. Ça
merci.
Touche des Congolais et c'est important.
Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Rigen Uviri, Jackson Aoussé Afingoto et Arsène Mouaka. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Dieudonné Nyangasa et à André Mongou qui est à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci encore et une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.
Attention j'arrive, t'es mal le charisme, mais pas dans ta story, j'suis blacklisté sur Belize. Sur le côté VIP, que de 10 sur 10, j'suis dans la zone à risque. Oh, j't'ai vu sur le périph', tu faisais la timide, tu m'as vu sortir de bolide à 6 chiffres. J'ai vu ton sourire donc, tu n'es pas timide, j'ai beaucoup d'ennemis, j'vais remonter. D'une façon plus poétique, t'es mon oasis dans cette capitale aride. Capitale aride, alors on s'éclipse dans la zone à risque. Oh, j't'ai vu sur le périph, tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir de bolide à 6 chiffres. J'ai vu ton sourire, donc tu n'es pas timide. J'ai beaucoup d'ennemis, j'vais remonter la vide. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi.
À mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, pour les